Welcome, my fellow brothers, on Rivard Hammer.
Et bienvenue à tous, mes très chers amis Wargamers, mes très chers petits bouseux. Bienvenue sur Rural Hammer. Rural Hammer, le podcast du Wargame à l'ancienne. Et un Rural Hammer de très bonne humeur parce qu'il vient de s'envoyer un petit bol de tripes aux carottes avec du vin blanc. Donc c'était un excellent goûter et qui m'a mis en jambe pour ce nouvel épisode de la rubrique chat. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'est le match play. Le match play est tout simplement l'expérience de jeu égal à Warhammer 40 000. Donc c'est à partir de ce système de jeu que vont s'articuler tous les événements autour du jeu. C'est-à-dire que vous alliez en tournoi, que vous alliez dans des parties organisées, le format choisi est le match play. En gros, le match play, c'est tout ce qui n'est pas narratif ou tout ce qui n'a pas vocation à s'inclure dans une croisade ou toute autre expérience de jeu privilégiant eh bien, le scénario. Ici, on part d'une base donc, conçue par Game Workshop, donc qui s'est incarnée de bien des manières de par le passé. En V9, il s'agissait par exemple des ouvrages nommés « Chapter Approved », qui, de manière saisonnière, c'était à peu près tous les 6 mois dans ma mémoire, organisait un nouveau système de jeu, incluant du coup des objectifs primaires, des objectifs secondaires, et incluait différents bonus comme des objectifs secondaires propres à chaque faction. Désormais, en V10, et ce depuis le début de la V10, donc depuis la nouvelle boîte de base, nous devons composer, pour faire du match play, avec le deck de cartes Léviathan. Donc ce deck de cartes Léviathan, j'en ai parlé un petit peu durant ma review de la V10, et je ne peux en dire que du bien, honnêtement, dans des événements à échelle associative ou tout simplement des événements où vous n'avez pas forcément le temps de bosser quelque chose d'autre qu'une petite partie à la con. Le match play, c'est le format roi pour ça, c'est-à-dire que des joueurs expérimentés en 2000 points font un match play généralement en 3 voire 4 heures. Donc 3 heures, c'est le format compétitif, c'est-à-dire qu'en tournoi, vous aurez une cloque qui compte réellement 3 heures de jeu, donc 1h30 pour chaque joueur. Ça paraît assez hard comme ça, la cloque de 3 heures, mais au final, dès lors qu'on a un codex bien en main et qu'on maîtrise bien les règles, honnêtement, ça passe assez vite, ça passe encore plus vite si l'adversaire vous enlève les 2/3 de votre armée au T2. Ce genre de partie se conclut assez rapidement, là généralement 3 heures, on est large. Donc, nous allons parler eh bien, de ce deck Léviathan, comment l'utiliser et éventuellement comment l'améliorer pour justement en faire quelque chose de plus immersif. Car ce qu'il se passe finalement avec ce deck Léviathan, au demeurant vraiment très bien fichu, c'est que des fois, eh bien, dans l'orgie de la bataille, vous allez tirer des cartes secondaires, donc des missions à accomplir durant ce tour, avec lesquelles eh bien, il n'y a pas trop de cohérence par rapport à votre plan de bataille. Donc on peut imaginer des situations, et ça arrive malheureusement assez souvent, on imagine des situations parfois un peu farfelues. Et je vous propose une petite mise en situation.
Capitaine ! Capitaine ! Les tyrannides sont sur nous ! Ils foncent droit sur nous ! Ils prennent d'assaut le bunker ! Faut nous envoyer des renforts ! Capitaine !
Du calme, sergent, gardez votre calme. Ici le capitaine. Je vais vous donner un ordre.
Quoi ? Mais le seul ordre à dire, c'est de... Il faut nous envoyer des renforts, c'est tout ce qu'on peut faire, capitaine, faites quelque chose !
Non, calmez-vous, lieutenant. Vous voyez, derrière vous, là... regardez un peu derrière vous.
Quoi, derrière moi? Mais je vois rien, capitaine, les tyrannides sont partout.
Non, non, calmez-vous. Regardez derrière vous, à peu près à 10 mètres derrière vous, vous verrez une petite balise qui clignote.
Ouais, je la vois la petite balise qui clignote. Ah, capitaine, on est en train de morfler. Faut nous envoyer des lignes, faut nous envoyer des renforts. Ah,
ouais, attends, je sais, les renforts vont arriver, mais pour l'heure, il faut que je mette 3 points. Du coup, tu vois la petite balise qui clignote, là, si tu pouvais juste appuyer sur le bouton...
Mais je m'en fous de la balise, je m'en fous. Ils sont sur nous, faut qu'on les tue, capitaine, des renforts, vite.
Bon, hey, calmez-vous, lieutenant. Je veux ma balise, vous allez gentiment appuyer dessus, j'ai besoin d'analyse de la faune et de la flore de cette planète tout de suite.
Voilà, ça c'est l'exemple typique. Vous êtes au cœur de la mêlée, vous faites face à un ennemi innombrable, vous êtes en condition de survie et ben, vous allez tirer une carte qui va consister à faire une action sur un objectif dans votre zone de déploiement. Donc ces actions, ben, parfois, elles ne sont pas définies de manière très claire. Il y a par exemple, lui, comme je viens de l'illustrer brillamment, une petite balise à déployer, ouais, pourquoi pas. Mais techniquement, on comprend pas trop le sens de ce genre d'objectif secondaire. Ça pourrait très bien être aller cueillir des fleurs sur un objet, faire un petit barbecue de sardines dans votre zone de déploiement. C'est un peu du casseur d'immersion quelque part. Cette escouade qui fait face à une menace immédiate, naturellement qu'elle a envie de lui tirer dessus au lieu de faire une action à la mort moelle-neuve. Pour que vous compreniez bien et pour encore une fois illustrer mes talents d'acteur, partons sur une autre mise en situation.
Je suis Billy le Dreadnought.
Billy.
Je suis vénérable. Mon devoir est éternel.
Billy.
Dans les fluides de mes machines coule
Billy.
La sagesse des anciens.
Merde, il m'entend pas.
Je vais de ce pas accomplir mon devoir et exterminer
Billy,
cette horde de Xenos.
Ouais. Billy. Écoute, t'es bien gentil, mon petit Billy, mais là, je vais avoir besoin que t'ailles vers ce quart de table là-bas.
M'emballer de ton quart de table. Mon devoir est éternel.
Ouais.
Je vais purifier le champ de bataille par sa volonté de l'empereur.
Non, écoute, j'ai vraiment besoin que t'ailles capturer ce quart de table là-bas. Tu pourras pas vraiment tirer.
Je suis invincible.
Mais j'ai vraiment besoin que t'y ailles.
Sa mère, j'ai trop le seum. Je peux pas tirer.
Voilà. Encore un petit exemple où finalement un objectif secondaire va vous obliger à renoncer à la létalité potentielle d'une machine de guerre comme Billy le Dreadnought. Donc, ce genre de situation, quelque part, est un peu monnaie courante. Et donc, quel est le moyen, finalement, d'y remédier ? Eh bien, moi, je suis un joueur parfois très stupide, et quand je tire une carte secondaire qui ne me plaît pas, eh bien, tout simplement, je ne vais pas la faire. Donc, naturellement, le jeu vous permet également de défausser cette carte. Hein. Il y a des mécaniques qui font que vous pouvez défausser une carte pour un PC, que ce soit en début de tour ou en fin de tour, où ça vous rapporte des PC, justement. Il y a des mécaniques de jeu vous permettant de faire fi d'un objectif secondaire qui soit n'est pas adapté à ce que vous voulez faire, soit tombe trop tôt ou trop tard durant la partie. Clairement, capturer la zone de déploiement ennemie quand on la tire T1, ce n'est tout simplement pas possible de la faire. Donc, soit on la garde sous le coude, soit on la défausse. Donc, il y a des mécaniques pour un peu contourner les objectifs secondaires. Mais moi, en tant que joueur très stupide, quand je tire un objectif secondaire qui tout simplement me donnera une situation ridicule du genre Billy le Dreadnought qui va capturer un quart de table, eh bien, je ne la fais pas et je renonce au score. Et honnêtement, j'ai perdu un paquet de parties juste parce que je faisais ma petite drama queen à ne pas vouloir de situation incohérente sur le champ de bataille. Donc ça, ce sont des choix très personnels et justement, dans mes aspirations narratives, même quand je joue dans des situations, on va dire, vite fait, c'est-à-dire un petit match play en assaut, tout simplement, le vendredi soir avec les copains, parfois, ça m'arrive vraiment de renoncer à un objectif juste parce que je trouve ça trop con. Donc, comment remédier à ça, quelque part ? Comment refaire du match-play quelque chose de plus immersif qui vous épargnera des situations un petit peu ridicules, eh bien, nous allons les réécrire ou tout du moins les réadapter. Et donc là, je vais vous parler de cadres de bataille qui se déroulent à la cool. Donc, on ne sera pas dans des situations de match-play en assaut où il faut aller assez vite. Là, on va parler d'un cas où vous invitez un copain à la maison, il y a des bières au frais, il y a des noix de cajou, et clairement, on prend la journée entière pour se faire une belle bataille. Et donc, recréer le deck Léviathan. C'est tout à fait possible et c'est tout à fait facile. Et je pense que dans le cadre, par exemple, d'un joueur qui a envie de plus en plus de partir vers des scénarios de plus en plus personnalisés, jusqu'à aller, par exemple, à une véritable bataille narrative, eh bien, cette petite réécriture du deck Léviathan est sans doute la première étape à passer. C'est-à-dire qu'on reste dans le cadre du match play tel que l'a écrit Game Workshop, avec son système de cartes officiel. Donc, on va calculer exactement de la même manière les coûts en points, donc les points que ça vous rapporte, par exemple, aux objectifs primaires et secondaires. Mais on va lui redonner un peu de panache à ce deck de cartes. Et donc, j'ai choisi finalement de couper les objectifs secondaires en deux catégories. Il y a tout simplement la catégorie qui relève de la stratégie militaire pure et dure. C'est-à-dire que ces cartes-là, elles n'ont pas vocation à être changées parce que leur intitulé parle de lui-même. On est tout simplement sur des grands classiques de la stratégie militaire, donc, qui consiste à s'emparer du champ de bataille, qui consiste à contrôler des zones clés, qui consiste à s'infiltrer dans les lignes ennemies, etc., etc., etc. Donc, on va les passer en revue vite fait. Ces cartes-là n'auront pas vraiment vocation à être changées. Elles se suffisent à elles-mêmes. Donc, on commence par l'engagement sur tous les fronts. Donc, à chaque fois, je vais vous lire le petit intitulé de l'or qu'il y a en dessous du titre de la carte. Clairement, le truc que personne n'a jamais lu. Mais moi, je vais vous le lire parce que c'est ça, finalement, qui rend le truc palpitant. Et à mon sens, quand on tire un petit objectif secondaire, eh bien, ça donne toujours un peu de classe de lire le petit intitulé, en gros, qui va expliquer à votre adversaire quels seront ses enjeux pendant son propre tour. Donc, engagement sur tous les fronts. Cette zone est d'une importance extrême. Lancer un assaut immédiat et général pour la capturer et en chasser l'ennemi une bonne fois pour toutes. En gros, c'est du contrôle map. On veut être partout et on veut dominer le champ de bataille. Très bien, on garde. Sécuriser le No Man's Land. Vous devez investir rapidement le No Man's Land avant l'ennemi au risque que ce dernier prenne le contrôle du champ de bataille. On est tout à fait dans la même lignée. C'est du contrôle map qui va vous aider à mettre des scores d'objectifs primaires. Parfait, on garde. Élargir les lignes de front. Le champ de bataille se remporte un mètre après l'autre. Maintenez une forte présence militaire dans la zone. Bien ça, pareil, on est toujours dans la catégorie contrôle map. Il faut s'emparer du plus d'objectifs possible. Donc, idem, on est vraiment sur des grands classiques. Toujours le contrôle map, quoi. Et capturer l'avant-poste ennemi. Un objectif vital a été identifié dans les environs, mais l'ennemi le détient pour l'heure. Vous avez pour ordre de vous en emparer à tout prix. Donc ça, c'est un des secondaires qui vous rapporte le plus de points. C'est tout simplement, il faut vraiment aller taper l'incruste dans l'objectif de la zone de déploiement adverse. Donc celui-là, généralement, quand vous le réussissez, c'est un grand coup. Ça met souvent la pression à votre adversaire et c'est bien normal parce que vous êtes chez lui. Coucou, me voilà.
Coucou, avez-vous entendu parler de l'Empereur ?
Un autre petit objectif, c'est force écrasante. Là, on va commencer à rentrer dans les secondaires d'attrition. Éradiquer l'ennemi de la surface du champ de bataille. Donc là, il n'y a absolument rien de compliqué. Il faut tout simplement que vous butiez des unités ennemies qui étaient sur un objectif. Autre secondaire d'attrition, pas de prisonniers. Le sous-titre est simple, exterminer vos ennemis. Bon, les choses sont claires, vous allez mettre des points à chaque fois. Vous allez balayer une unité ennemie, que ce soit au tir ou au corps à corps. Un autre petit secondaire, défendre le bastion. Vous êtes chargé de défendre un objectif crucial. L'ennemi ne doit surtout pas mettre la main dessus. Donc encore du contrôle map, plus défensif cette fois, très bien. Assaillir l'objectif hostile. Dominer le champ de bataille. Assaillir tous les sites d'importance tactique et ne laisser nulle part où se cacher à l'ennemi. Donc là, on est dans du contrôle map, mais agressif cette fois. Donc il va s'agir encore une fois de contrôler plus d'objectifs que celui de votre ennemi. On voit que quelque part ces secondaires se ressemblent un petit peu. Il y a à mon sens deux familles de contrôle map, agressif ou défensif, généralement, il y a deux, trois cartes qui disent plus ou moins la même chose. Mais bah, ces cartes, vous allez les tirer plusieurs fois dans une partie. Donc, vous serez content d'avoir plusieurs cartes de contrôle map, agressif ou défensif. Et le dernier, c'est derrière les lignes ennemies. Effectuer une percée dans les lignes ennemies et couper leur toute retraite. Donc ça, bah, idem, il faut tout simplement que vous vous incrustiez vraiment dans la zone de déploiement adverse. Donc c'est tout pour ces secondaires qui, j'ai envie de dire, se suffisent à eux-mêmes. Ceux-là, on peut les graver dans le marbre, ils ne nécessitent pas vraiment d'adaptation. Je pense que quelle que soit la faction que l'on joue, quelle que soit l'unité dont on va se servir durant ce tour, chacune de ces cartes aura du sens. C'est du control map. Donc ce sont les secondaires qui se combinent le mieux avec la domination qu'on exerce sur les objectifs primaires. Donc là, potentiellement, on est quand même sur des secondaires qui sont assez juteux. Donc voilà, ça combote assez bien avec le score des primaires. Donc ensuite, dans mon petit tri, j'ai repéré des autres objectifs secondaires, cette fois qui vont concerner un peu plus les actions à mener. Donc, quand vous menez une action, ça vous empêche de tirer et de vous battre au corps à corps. Il ne faut pas que vous soyez engagé. Et faire des actions, c'est là où on va rencontrer parfois soit des incohérences, soit des trucs complètement cons. Mais donc, ici, on va essayer de les réadapter. Donc, par réadaptation, j'entends quoi ? Ça veut dire que, suivant la faction que vous jouiez, la première carte que je tire, par exemple, qui s'appelle « Inspecter les signaux », il faut tout simplement réfléchir à quel pourrait être ce type de signal. Qu'est-ce qui pourrait être l'atome crochu entre ce signal et ma propre armée ? Et donc, ces objectifs, on va les réécrire d'une part pour l'attaquant et d'autre part pour le défenseur. Parce que on a en commun ces cartes d'objectifs secondaires. Donc, vous allez tirer les mêmes que celles de votre adversaire. Donc, pour ce qui est des secondaires vus précédemment qui concernent vraiment la stratégie militaire au sens global, ce n'est pas grave d'avoir les mêmes. Mais dans cette deuxième famille, il peut être de bon goût d'écrire pour chacune des différentes factions. Donc là, honnêtement, je vais ouvrir tout simplement des portes. Je n'ai pas encore la réponse à tout par rapport à ces secondaires qui demandent potentiellement une petite réadaptation narrative, mais je vais vous donner quelques pistes, quelques indices. Donc, carte secondaire, inspecter les signaux. Notre flotte a reçu un mystérieux signal sur cette zone de guerre, et il semble que sa source vienne de quelque part dans les environs de ce champ de bataille. Localisez cette source et sécurisez-la sans délai. Donc là, on ouvre un peu la porte de l'imagination. Admettons, je joue Blood Angels. Ce signal qui vient de ma propre flotte, de quelle nature peut-il être ? Et sur quoi ? Peut-il donner ? Est-ce que ça peut être l'arrivée de renfort ? Est-ce que ça peut être une petite frappe orbitale ? Il y a, finalement, là, tout est possible. Donc, l'objectif en lui-même, c'est que, à votre phase de tir, vous allez déclarer cette action. Et cette action, vous devez l'amener dans les coins de la table. Donc là, vous devez être à 9 pouces du coin d'une table. Donc, ce signal, qu'est-ce que ça peut être ? Est-ce que ça peut être une demande de renfort ? Est-ce que ça peut être la création d'une zone d'évacuation ? Est-ce que ça peut être la pose d'une balise qui vous signale pour faciliter l'approchement d'escadrons d'aérodynes ? Toutes les portes sont possibles, mais là, cet objectif secondaire en particulier, il est potentiellement le plus dur à réadapter parce que ça peut absolument être tout et n'importe quoi. Donc, il faut tout simplement réfléchir. Vous avez votre carte, vous avez vos deux factions qui s'affrontent, réfléchissez, qu'est-ce que ce signal peut être ? Que l'on joue Tau, Necron, Space Marine, qu'est-ce que ce signal peut être ? Il peut être absolument tout. Et si vous voulez pousser un petit peu plus loin, le narratif, admettons que ce signal que vous inspectez, au tour suivant, il pourrait donner naissance à un événement qui se déclencherait sur un 4+, un petit bombardement orbital, une petite arrivée de renfort gratuite, quelque chose comme ça, tout est absolument possible. Mais en tout cas, vous n'aurez aucun mal à trouver quelque chose de plus stylé que « Ah, je vais dans ce coin de table et je vais inspecter un signal que je ne sais même pas ce que c'est. » Bon, tu vois, là en gros, on marque des points et on ne sait pas vraiment pourquoi. Donc, inspecter un signal, en gros, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, la réponse, je ne l'ai pas, parce que ça peut être absolument tout. Un autre secondaire, mais qui n'est pas plus évident, on va dire, à retraduire, entre guillemets, c'est l'interdiction de zone. Il est capital que cette zone reste sous votre domination. Aucune unité d'avant-garde ou de guérilla ennemie ne doit mettre en péril nos plans. Donc ça, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez vous emparer du centre du champ de bataille. Donc là, on est toujours sur un objectif de contrôle map, mais on peut lui adjoindre quelque chose d'un peu narratif. Pensez à votre armée et dites-vous qu'est-ce que votre armée pourrait faire de stylé au centre de la map. Ça pourrait être, par exemple, pour les Blood Angels, de mener un rite de sang. ça peut être pour Nurgle de faire un petit rituel du warp. Donc ici, formellement, on est sur du control map, mais que vous allez pouvoir enrichir d'un petit élément narratif. Donc idem, en début de partie, pensez finalement à ce que votre armée, et notamment, on pense à une grosse escouade d'élite avec un QG, avec un bon vieux capitaine par exemple, pensez finalement à ce que cette escouade pourrait accomplir au centre d'un champ de bataille. Le centre est à vous. Qu'est-ce que votre armée ferait dans ces cas-là? Donc on est sur de l'anecdotique complètement, mais de l'anecdotique qui va un petit peu enrichir vos parties, du moins dans leur cinématographie. Donc là, idem, tout reste à inventer. Ensuite, on part sur les objectifs secondaires. Donc là, j'ai deux cartes dans mes mains. Ce sont des objectifs secondaires d'attrition pure que sont assassinat, donc tuer des personnages ennemis, ou abattez-le, tuer les unités lourdes de l'ennemi. Donc idem, comme les premières cartes qu'on a vues dans cette émission, ces cartes-là, finalement, se suffisent à elles-mêmes. Mais là, d'un point de vue narratif, vous pouvez enrichir ça. Et la meilleure phase pour enrichir vos parties narrativement, c'est tout simplement la phase de commandement. Donc ça tombe bien, c'est la phase durant laquelle on tire nos cartes. Et donc que ce soit pour l'assassinat ou le abattez-le, vous pouvez imaginer tout simplement que tel ou tel QG de votre armée donne tel ou tel ordre à une unité. Franchement, quand vous tirez ces cartes, vous dites « Ok, comment je fais pour tuer un personnage ennemi ?» Vous allez désigner des unités qui sont les plus à même de remplir ce devoir. Idem pour abattre des châssis lourds, vous allez mettre en œuvre votre backline, souvent d'anti-char. Juste pour donner un petit peu de panache à ces deux cartes, essayez de nouer un petit dialogue au sein de vos troupes. Voyez qui donne l'ordre à qui pour faire quoi. Donc là, c'est tout simplement quand vous exposez votre plan de bataille à votre adversaire, essayez d'y mettre un petit peu de littérature. Et par exemple, c'est Kevin Schreik a donné l'ordre à ses suppressors et à cette escouade arrivée de réserve stratégique de flinguer le lieutenant ennemi qui se situe sur cet objectif-là. Donc voilà, là c'est juste un petit enrichissement narratif qui permet de rendre ces deux cartes d'attrition pure un petit peu moins, on va dire, génériques. Autre carte qui, cette fois, est plutôt intéressante, c'est la purification. Donc la purification, les objectifs de cette zone ont été corrompus et doivent être rituellement purifiés par le feu. Donc là, typiquement, dans l'intitulé de l'objectif, on imagine que quand on joue certaines armées, ça n'a pas de sens. Jouer, par exemple, des taux, un objectif corrompu, qu'est-ce qu'on fait? On doit faire du feu dessus. Bref, ça n'a pas de sens. Idem pour un Nécron. Le Nécron s'en fout de la corruption. Il la foule de ses pieds tout en continuant de tirer. Ça n'a pas vraiment de sens. Donc là, idem, c'est une action à faire sur un objectif qui vous empêchera de faire quoi que ce soit d'autre. Et bien là, c'est encore une porte ouverte à l'imagination. La corruption purifiée par le feu, on peut très bien en rester là, par exemple, quand on joue des Grey Knights ou des Sœurs de Bataille. Elles vont mener une espèce de rituel de purification en allumant un grand brasier et louange à l'empereur, petite prière et compagnie. Là, on reste vraiment sur un terrain connu. Donc, on peut tout d'abord prendre cet objectif secondaire, c'est que, par exemple, un objectif sanctifié peut se faire corrompre par des forces de démons ou de Space Marine du Chaos, donc tout ce qui a trait finalement aux dieux sombres. Donc là, ce ne sera plus une purification, mais un petit rituel du warp, une invocation de démons, ou tout simplement la Death Guard qui va se mettre à faire popo partout. Ça peut être aussi des Emperor Children qui se mettent une petite main au cul. Ça peut être absolument tout ce qu'on veut. Donc par exemple, on peut imaginer une faction de Drukhari en train de regrouper des prisonniers pour en faire des esclaves. Donc cette purification, vous allez pouvoir lui donner la couleur que vous voudrez. Donc là, on réécrit la carte tout bêtement et cette purification peut devenir un rituel warp si on joue KO, un asservissement de troupes capturées quand on joue Drukhari. Ça peut être une petite lecture de runes du destin à même le champ de bataille quand on joue Eldar. Ça peut être une danse de la guerre quand on joue Orc. Donc là, libre cours, encore une fois, à votre imagination. Le gain en points, on va dire que c'est le même, quoi qu'on fasse. Mais cette purification, encore une fois, peut prendre toutes les formes que l'on veut. Ensuite, autre petit secondaire intéressant, c'est déployer la balise. Une flotte alliée est en approche, prête à lancer une invasion à grande échelle de la planète. Si notre force d'avant-garde déploie une balise de téléportation ou de localisation en territoire ennemi, nos troupes en orbite pourront lancer une attaque surprise dévastatrice. Donc ça, c'est un objectif secondaire qui, finalement, va obéir aux mêmes règles que les autres. C'est par exemple la détection d'un signal. Là, on déploie une balise. Donc, on peut imaginer une autre petite source de l'or qu'un vaisseau spatial en orbite prêt à frapper. On peut imaginer d'autres choses, tout simplement parce que déjà, il y a des factions qui n'ont pas forcément de flotte alliée en approche. Mais donc, cette balise, c'est encore une fois une action qu'on va faire au centre du champ de bataille ou dans la zone de déploiement ennemi. Et le problème que j'ai, par exemple, avec ce type de secondaire, c'est qu'il n'aboutit pas sur un résultat. Cette balise que l'on déploie, finalement, nous n'en verrons pas le résultat lors de la suite de la partie. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Une fois que votre balise est déployée, au tour suivant, sur un 5+, vous aurez un petit bombardement orbital. Ou alors, à l'emplacement de cette balise, vous aurez accès à un rapid ingress pour 0 PC. Ça, c'est le genre de truc que j'aime bien un petit peu ajouter. Parce que là, en l'état, ce secondaire, la balise est déployée, je marque mes points et ensuite, plus rien. Donc ici, libre à vous d'inventer une petite règle qui va bien, du genre le tour où on déploie la balise, le tour suivant, on aurait un bombardement orbital sur du 5+, donc chaque unité, par exemple, prendrait des 3 mortels sur un 4+ au dé. Au tour suivant, le bombardement aurait lieu sur du 4, puis sur du 3+, etc. Ou comme je l'ai dit, cette balise, elle va servir de relais à vos troupes qui sont en chambre de téléportarium. Donc ça peut être sympa. Vous décrétez que cette balise, vous aurez un rapide ingress gratuit à 3 pouces autour d'elle. Donc là, il faut désigner tout simplement un petit pion. Ça, je ne l'ai pas dit, mais une autre manière d'enrichir le secondaire, c'est de créer des petites figurines tout à fait explicites. C'est-à-dire qu'une balise que vous déployez, vous prenez une petite figurine de balise, comme on en trouve dans les kits de Terminator. Idem, inspecter les signaux, ce signal, il peut prendre la forme d'une chose ou d'une autre, par exemple d'une caisse de munitions tombée d'un aérodyne, etc. Si vous avez des petites figurines pour illustrer les secondaires que vous accomplissez, c'est très cool. Idem, la purification, ça peut prendre forme sous une figurine, par exemple, d'un Aquila qu'on vient de dresser avec un brasier à ses pieds. Il y a moult et moult façons. Si vous jouez Nurgle, vous allez pouvoir dresser une espèce d'idole de grand-père Nurgle avec plein de petits Nurglings autour. Il y a bien des manières de rendre une partie plus riche en matière de secondaire. Ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres. Mais donc, déployer la balise, à vrai dire, c'est la seule carte du deck Léviathan que là, je réécris véritablement. Non pas seulement d'un point de vue narratif, mais je lui ajoute souvent deux ou trois petite règle, donc en accord avec mon adversaire, évidemment. Mais là, également, déployer une balise suivant la faction que vous jouez, à quoi ça peut donner naissance en termes de stratégie militaire et surtout en termes de cinématographie. Et la dernière carte qui est une cible tentante. Donc la cible tentante, au même titre que les objectifs secondaires, par exemple assassinat ou abattez-le, eh bien on va faire entrer un peu en jeu le pouvoir de la littérature. Et donc la cible tentante, c'est tout simplement l'adversaire qui vous lance un défi. Il va vous cibler un objectif dont vous devrez vous emparer pour mettre le nombre de points adéquat. Donc traditionnellement, évidemment, l'adversaire va choisir pour vous l'objectif le plus difficile à capturer. Et ça, ça peut tout simplement naître d'un petit discours du chef ennemi qui vous lance un défi. C'est un peu en mode « viens te battre si tu l'oses ». Donc là, suivant le scénario auquel vous jouez, suivant l'armée que vous jouez, ça peut prendre également bien des formes. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu des objectifs secondaires et je vous donne simplement quelques pistes pour, quand vous avez le temps, de donner un peu de panache à l'ensemble. On ne va pas se contenter de jouer certaines cartes telles quelles. La purification, quand on joue chaos, ça n'a pas de sens. Inspecter des signaux, déployer des balises, on va essayer de trouver un peu de background pour enrichir tout ça. Et donc, ce que vous aurez, c'est une espèce de match play un peu amélioré, avec un peu plus de narration, un peu plus de panache. Et si vous avez bien travaillé, peu de situations incohérentes. Donc c'est quelque chose que je vous encourage tout simplement d'essayer. Quand vous avez le temps, quand vous êtes avec un joueur avec lequel vous vous entendez bien, prenez un petit quart d'heure pendant l'apéro, vous prenez ces cartes que j'ai citées et vous essayez de les réécrire, mais à votre façon, donc suivant finalement ce que sont les motivations de la faction que vous jouez. Donc typiquement, quand on joue Drukhari, on va avoir envie de faire des prisonniers. Donc là, il y a des choses qu'on peut réécrire à base de ça. Idem, quand on joue Custodes, cette partie peut ressembler à une partie de chasse durant laquelle finalement chacun des guerriers va faire l'étalage de ses prouesses martiales en faveur de l'empereur. Tout ça peut prendre mille et une formes. Les ambitions de chaque faction sont différentes. Certains se battent pour les puissances de la ruine, d'autres pour le bien suprême, d'autres pour l'empereur, d'autres luttent contre leur extinction prochaine. Il y a vraiment un tas de choses à faire. Et à partir de là, si vous maîtrisez déjà un petit peu ce noyau d'objectifs secondaires et de missions primaires également, je n'en ai pas parlé, mais les missions primaires de Léviathan sont assez riches et certaines peuvent très bien s'inscrire dans des parties au contour plus narratif. Donc n'hésitez pas à faire vos courses là-dedans également. Mais bref, il y a vraiment moyen de varier les plaisirs et d'ajouter vos petites règles maison, donc comme celles que j'ai énumérées. On peut très bien imaginer que une balise fasse arriver des renforts plus facilement, une balise fasse intervenir votre flotte en orbite plus facilement. Il y a mille et une choses à faire. Par exemple, quand vous allez inspecter les signaux dans des quarts de table, ça peut très bien également vouloir dire aller vers une zone d'extraction et repartir en réserve stratégique gratuitement. Bref, il y a vraiment mille et une choses à inventer, ne serait-ce qu'avec ce carte Léviathan, dont vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Et ce premier essai, quelque part, cet embryon de narration dans les parties, elle peut sans doute vous donner envie d'aller plus loin en la matière jusqu'à atteindre la sacro-sainte bataille purement narrative. Donc, on peut ensemble un petit peu aborder le sujet. Je pense que les batailles narratives seront au cœur de prochaines émissions, mais pour vous donner déjà un peu de grain à moudre, comment on écrit des scénarios maison? L'histoire nous a donné, les dernières grandes batailles, je crois qu'on peut remonter sur 4 à 5 000 ans d'histoire. On a des batailles antiques qui sont très bien retranscrites, par exemple. Il faut tout simplement vous intéresser un petit peu à l'histoire pour avoir un panorama de ce qu'est les différents scénarios de stratégie militaire possible. Donc il y a des ouvrages à n'en plus finir. Moi j'avais relu récemment la guerre des Gaules de Jules César, mais ne serait-ce que dans la guerre des Gaules, vous avez absolument c'est une encyclopédie de la stratégie militaire, parce que vous avez toutes les situations. Vous avez les couloirs de retraite, vous avez du siège, vous avez de la bataille rangée, vous avez absolument tout ce qu'il faut. Et Jules César, de plus, aimait appuyer ses propos militaires avec tout ce qui tournait autour de la logistique. Donc, on parle de rationnement, de ravitaillement, comment l'utiliser pour combattre l'ennemi, etc., etc. Tout ça peut vous donner moultes idées. Vous commandez un petit hors-série de n'importe quelle revue historique, genre les plus grandes batailles de Napoléon. Dans ce genre d'ouvrage, vous saurez tout ce qu'il y a à savoir sur l'art de la guerre et ça va vous inspirer à faire des scénarios maison dans un premier jet les plus simples du monde. Et donc, dans les scénarios maison, moi, il m'arrive d'en faire quand j'ai le temps, quand l'adversaire s'y prête également. Et honnêtement, je ne fais absolument rien d'original. On est vraiment à chaque fois sur des parties type. Et c'est des choses qui finalement se prêtent très très bien à l'univers de Warhammer 40 000. Donc, une des premières grandes familles de scénarios maison, c'est tout simplement les scénarios défensifs. Donc, il va concerner la défense d'un bastion ou le dernier carré d'une force armée dans une ville en ruine. Et généralement, cette défense de bastion, ce dernier carré de la gloire, il aura lieu en plein centre de map, une map autour de laquelle, il y aura une déferlante d'ennemis, des ennemis que l'on va faire venir par vagues. Généralement, c'est des parties où le défenseur profite de pas mal de bonus parce qu'il est retranché, il est à couvert, il est immobile, il va lutter pour sa propre survie et il va tout donner. Donc moi, traditionnellement, dans ces parties-là, je donne aux défenseurs des bonus qu'on retrouve un petit peu, par exemple, dans le détachement Imperial Fist, donc c'est-à-dire des bonus d'attrition dès lors que vous ne bougez pas. De toute manière, vous n'aurez pas vraiment vocation à bouger, vous êtes à l'abri derrière vos murs, vous êtes à l'abri dans vos tourelles, dans vos bunkers, il faut que vous surviviez le plus longtemps possible. Quant au déploiement ennemi, là on peut jouer sur quelque chose de complètement aléatoire et sans calcul de points. C'est qu'on va faire venir des vagues, vague par vague, tour par tour, on les fait venir à différents points de la table, donc des coins de table que l'on peut tirer au dé par exemple, et cette partie elle peut très bien se conclure par exemple, comme on l'a vu, du déploiement de balises qui va signaler votre présence, qui va signaler votre SOS. Vous êtes en situation de détresse, il faut que l'on vienne vous secourir. Et ces secours, ils vont prendre la forme soit de zones d'extraction à atteindre, soit de l'arrivée, par exemple, d'aéronefs alliés qui vont venir vous cueillir. Donc ça, j'ai fait ça il n'y a pas longtemps avec des Space Marines. Le but du jeu, c'était de faire venir deux escorteurs Stormraven. Donc ces escorteurs Stormraven, on a calculé finalement leur zone de déploiement au dé avec ce fameux dé de déviation qui était celui utilisé dans la V2. Quand par exemple vous surgissiez d'un téléportarium, à l'époque on avait un dé de déviation. Votre téléportation était un peu soumise au courant du warp et vous vous retrouviez pas du tout là où vous l'aviez prévu. Donc il y a énormément de trucs sympas à faire avec ce type de scénario. L'ennemi, de son côté, aura probablement des objectifs secondaires d'attrition. Donc là, dans le cadre de bataille narrative, c'est vous qui allez créer vos secondaires. Mais cependant, dans le deck Léviathan, il y a les objectifs de contrôle map qui sont franchement déclinables à l'infini. Dans n'importe quelle bataille narrative, vous trouverez au moins deux ou trois cartes de très bon ton pour ce genre de scénario défensif. Donc là, c'est un grand classique de Warhammer 40 000, c'est très kiffant à jouer, vous êtes en condition de survie totale. Là, naturellement, il faut choisir des factions qui s'y prêtent. Si vous avez, par exemple, un détachement entièrement composé d'armure Terminator, c'est tout à fait le genre de mec qu'on va vouloir mettre en scène lors d'un dernier carré glorieux. Donc ne faites pas ça avec des Banshee Eldar, vous voyez, c'est pas du tout le profil de troupe que l'on veut pour faire de la défense. Donc naturellement, c'est le genre de scénario qui va plaire beaucoup aux joueurs un peu de type siège, Iron Warrior, Imperial Fist. Quant à la déferlante ennemie, qui l'incarne mieux que, par exemple, des orques, des tyrannides, voire du culte Genestealer. C'est-à-dire une armée Xenos populeuse est sans doute la meilleure candidate pour faire une prise de bastion. Donc ça, c'est un scénario que j'adore, je le fais très souvent. il évolue au fil des parties, parce que parfois je mets en place des objectifs secondaires, eh bien, on se rend compte que ce n'est pas très équilibré ou ça rapporte trop en points, etc. Donc au fil des parties, eh bien, on affine. Ensuite, un autre grand type de scénario maison, c'est le couloir de retraite. Vous prenez votre armée qui est en déroute. Vous devez traverser la table dans toute sa longueur alors que vous serez complètement harcelé par l'ennemi sur les flancs. Donc là, c'est des positions très agressives. C'est souvent des scénarios assez difficiles. Là, typiquement, idem, on ne joue pas ça avec n'importe qui. Par exemple, qui de mieux placé pour faire un couloir de retraite que des unités mobiles, donc des motos, des unités avec jetpack, des aéronefs, des châssis légers qui se déplacent assez vite, tandis que l'ennemi autour, eh bien, sera d'un potentiel nettement plus agressif, pourquoi pas lent à l'avancée inexorable, façon Death Guard, par exemple. Donc ici, dans ce type scénario maison, donc déjà, c'est un couloir de retraite. Donc il y a évidemment le joueur en fuite qui est désavantagé dès le départ. Mais parfois, il y a des surprises, c'est qu'au cours de la bataille, eh bien, cet ennemi en déroute va pouvoir eh bien, prendre l'ascendant. Et cet ascendant, il peut se manifester de telle ou telle manière. Par exemple, cette zone de la table que vous devez rejoindre, donc on peut appeler ça une zone d'extraction, eh bien, vous pourrez calculer par exemple qu'à chaque tour, sur un jet de dés, tel ou tel type d'unité alliée, pourquoi pas volante tout simplement, viennent là pour vous attendre, pour vous accueillir, pour vous aider quelque part à couvrir votre retraite. Donc ça, ça peut être des batailles très intéressantes qui se déroulent vraiment d'un front à l'autre, c'est-à-dire vous commencez votre partie sur le bord d'une table et à partir du tour 2, pourquoi pas, des unités alliées très ponctuelles, au compte-gouttes, viennent de ce bord de table-là pour vous accueillir, pour essayer de vous rejoindre, pour essayer de couvrir les flancs du champ de bataille durant votre retraite. Donc, c'est très sympa. Et du côté de l'agresseur, là, on peut vraiment partir sur des objectifs secondaires d'attrition pure. Vous êtes en retraite, lui, son but, c'est de vous annihiler. Donc là, bah, on imagine très facilement des bonus dès lors qu'on tue un personnage, une unité lourde et des bonus d'attrition pure et dure, c'est-à-dire qu'à chaque unité ennemie détruite, on va mettre tel ou tel nombre de points. Donc ce scénario-là, moi j'en suis à mon deuxième jet, je l'ai joué deux fois. En termes de score, je suis encore sur quelque chose un peu aux fraises. La dernière fois, clairement, c'était impossible pour le joueur en retraite de scorer à la hauteur de l'attrition qui était celle de l'ennemi. Et généralement, c'est des parties qu'on choisit de faire eh bien, en sous-nombre. Tout comme pour la défense de Bastion, l'ennemi en fuite n'a pas vocation à être plus nombreux que son agresseur. On parle vraiment de survivants d'un autre front du champ de bataille. Donc, scénario très sympa, un autre grand classique, mais qu'on ne va pas faire avec n'importe qui. Il n'y a pas longtemps, dans un petit tournoi narratif, j'ai dû jouer le couloir de retraite avec des custodes. Bah, résultat, en fait, T2, j'en ai eu marre. Je me suis retourné contre mon agresseur et je lui ai foncé dedans. Donc ça a plutôt mal fini, mais je ne pouvais pas me résoudre à jouer la retraite avec des custos. Par contre, faites ça avec des pirates Eldar ou ce genre de truc, ou même alors, une armée complètement en déroute, mais une armée de bras cassés, si vous voulez, avec beaucoup d'orques complètement cons, des Gretchen, des machines brinque-ballantes, voilà, ce type d'armée un peu, l'armée de la loose, mais qui peut être accueillie, bah, pourquoi pas, par des élites alliées pour faciliter eh bien, leur extraction. Donc encore un scénario souvent très fun, celui-là. Et voilà, c'est toujours un succès, hein, honnêtement. Ensuite, on peut jouer également des autres grands classiques. C'est tout simplement la prise d'assaut de différents types de bâtiments. Donc là, c'est quelque chose d'intrinsèquement lié au type de table sur lequel vous jouez. Par exemple, une prise d'assaut, ça peut être celle d'un hôpital, d'un hangar de munitions, d'une cathédrale, de différents types en fait, de bâtiments liés à l'administration de l'Imperium. Et donc cette prise d'assaut de bâtiments, eh bien là, narrativement, c'est un des trucs les plus riches qu'il vous serait donné de faire, mais ça implique également, généralement, la construction de figurines et de décors, pourquoi pas. Par exemple, imaginez un gigantesque hangar de munitions. Voilà, c'est quelque chose qui est géré par l'Adeptus Mechanicus. C'est un endroit où grouillent des servitors, des petits cerveaux-crânes, et bien... Par le coup du destin, votre armée s'est retrouvée retranchée dans ce hangar à munitions. Elle avait besoin de s'approvisionner en armes. Eh bien, ça tombe bien, vous tombez dans ce hangar de munitions, sauf que au dehors, l'ennemi prend position et se prépare à un siège. Enfin, un petit siège, parce qu'on ne parle pas de fortification, mais de bâtiment. Et vous allez, eh bien, vous sortir de ce hangar de munitions. Mais ce hangar, il va vous donner, par exemple... des bonus. Donc ça peut être par exemple des bonus d'armement. Donc on peut imaginer tel ou tel type de munitions spéciales qu'on emploie avec nos bolteurs. Mais ces avantages, eh bien, ils peuvent être également liés à la population que vous allez trouver sur place. Par exemple, dans ce hangar de munitions, donc vous aurez eh bien, des membres de l'Adeptus Mechanicus, pourquoi pas des Tech Marines, pourquoi pas des Servitors. Eh bien, ces troupes, vous allez pouvoir les recruter comme combattants de fortune, ou certains d'entre eux pourront vous donner des bonus. Par exemple, réparer vos véhicules 2 D3 PV, ce genre de petites règles supplémentaires qui va aider, là encore, une armée qui sera souvent en sous-nombre par rapport à son assaillant. Et donc, ce type d'infrastructure à visiter, là, potentiellement, on touche du doigt quelque chose d'infini. On peut imaginer également un hôpital de guerre dans lequel exerce un petit détachement de l'Adeptus Sororitas. Donc ici, ce sera, par exemple, des petites populations de troupes. Donc on peut imaginer ben, 2 petites escouades de Battle Sisters et eh bien quelques apothicaires, tout simplement quelques toubibs qui seront là eh bien, pour porter soutien à vos troupes. Donc il y a mille et une choses à faire. Si vous défendez par exemple une terre sainte, donc par exemple une cathédrale, eh bien, le but de la partie pourrait être, par exemple pour l'assaillant, la capture de reliques. Et donc là, c'est vraiment quelque chose de potentiellement infini, mais c'est quelque chose qui est intégralement lié finalement à la conception des décors que vous aurez choisi. Moi, par exemple, j'ai une table entièrement composée de cathédrales, eh bien, je n'aurais aucun mal sur cette table à créer un petit scénario d'attaque de lieux saints où il y aura des points clés sur la carte comportant, eh bien, par exemple, des reliques à protéger. Donc voilà, là, c'est quelque chose d'intrinsèquement lié à la nature même de votre table. Donc, pensez-y également. Donc, je vous renvoie à l'émission, le premier épisode de Beauté et Bien-être, où je vous ai parlé de la conception des tables. À l'époque, je n'avais pas abordé ce sujet-là, mais les tables, c'est également ce qui sera la source de tous vos scénarios maison à venir. Donc, gardez ça à l'esprit. Finalement, une table désertique avec plein de rochers dessus, eh bien, en termes de stratégie militaire, ça vous donne tout ce qu'il faut. Mais en termes de scénario, eh bien, on est un peu pauvre, à moins de fouiller dans le sable pour trouver des objets. On ne voit pas quoi bien foutre sur ce type de table. Donc pensez-y, il y a des tables plus thématiques que d'autres. Clairement, un champ de ruines bombardées, c'est pas extrêmement passionnant non plus. Tandis qu'eh bien, une cité-ruche habitée par différents gangs, une usine, un manufactorum, un hangar de munitions, un centre hospitalier... Tout ça, ça vous amène naturellement des scénarios maison que vous allez créer au fur et à mesure et surtout peaufiner. Donc, je ne vais pas m'éterniser sur ce que sont les scénarios maison. Il y en a de tout type. Il y en a que l'on prend plaisir à jouer. Parfois, ça ne marche pas parce que, à force, si vous voulez, d'enchaîner les différents types de scénarios possibles. Donc, moi, récemment, j'ai fait quelque chose qui ressemblait à de la capture de reliques, ou alors il s'agissait d'aller sauver des survivants blessés sur le champ de bataille, et également de s'emparer au passage de petits déchargements d'avions avec des armes à l'intérieur qu'il fallait acheminer vers des zones d'extraction ou des quarts de table ou des balises, etc. Donc, ce petit... lot de scénarios maison, donc que vous aurez potentiellement envie d'essayer. comment le faire évoluer ? Eh bien, moi, honnêtement, j'en reste sur ceux que je vous ai expliqués. Donc, par exemple, défense de bastion, dernier carré, couloir de retraite, prise d'assaut de tel ou tel lieu et d'autres scénarios divers de capture, de reliques ou de munitions ou de survivants. Eh bien, finalement, ces petits scénarios maison, on va se faire notre propre deck avec. C'est-à-dire vraiment notre deck Léviathan, mais sur mesure. Eh bien, ce deck, je suis en train finalement de le mettre au point et généralement ça passe par des parties test. Et donc les parties test à Warhammer 40 000, parfois ça peut être un fiasco intégral. Tout comme parfois un petit match play entre listes vraiment pas opti, entre listes fun, peut devenir un véritable peloton d'exécution. Eh bien, le test finalement de scénario maison peut aboutir sur des scores délirants. Donc, il n'y a pas longtemps, j'ai gagné un 98 face à 12. Donc, tellement finalement le scénario était plus dur à jouer d'un côté que de l'autre. Mais ce sont des choses dont on ne se rend pas forcément compte lorsque justement on écrit ses règles. Donc, clairement, pour chacun de ces scénarios maison que vous allez créer, il va y avoir des ratés. Mais justement, eh bien, ces ratés, vous allez les corriger au fur et à mesure. Quand vous voyez qu'un déséquilibre est trop gros, eh bien, vous rééquilibrez. Quand vous voyez qu'un objectif dont on s'empare rapporte pas assez de points par rapport à la difficulté qu'il a demandé, on rééquilibre, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Eh bien, on peut imaginer que tout ça, au bout d'une bonne année de partie, à faire des parties test avec vos amis les plus proches, du moins ceux qui ont le temps et l'envie de se consacrer à la rédaction de petits scénarios maison, eh bien, vous allez arriver gentiment à votre propre deck Léviathan. Donc, nommez-le comme vous voudrez celui-là. C'est que avec votre adversaire, vous aurez votre petit deck et vous allez faire exactement comme avec Léviathan. Vous allez tirer vos règles de mission au hasard et eh bien vous aurez quelque chose de complètement cohérent. Donc votre pote va pouvoir choisir de jouer un couloir de retraite, une défense de bastion, une prise d'assaut, etc. Et ensuite, vous pourrez lui proposer les objectifs secondaires qui seront associés à cette mission. Donc, l'écriture de scénario, on va pas se mentir, c'est du taf, c'est du temps de cerveau, ça demande un certain talent à parvenir finalement à se projeter dans le cœur de la bataille, mais sur papier, à déterminer qui va rapporter quoi en termes de score ? Quels seront les enjeux de la partie ? Qui sera l'adversaire qui part quelque part avec un boulet au pied ? Comment lui donner sa chance ? Etc, etc. Je pense que ce sont des choses sur lesquelles nous reviendrons. J'ai dans ma besace 3 ou 4 scénarios maison qui deviennent franchement assez bien ficelés, parce que ce sont des scénarios que j'ai joués au moins 5 fois, donc que j'ai rééquilibré sans arrêt au fil des règles. Donc je commence à avoir quelque chose de solide. Et si vous êtes timide en la matière, si vous n'osez pas, enfin, ou tout simplement si vous avez la flemme, hein, vous avez le droit aussi, eh bien, des scénarios maison. Il suffit d'aller se greffer à n'importe quelle communauté du wargame. Vous trouverez toujours un Jean Scénario qui fait que ça de son temps libre. Je pense que tous autant qu'on est, dans toutes les petites communautés reliées aux différents médias parlant du wargame, on a tous cet énergumène qui s'efforce de nous proposer sur Discord ou ailleurs des scénarios maison. Et il a bien raison, donc n'hésitez jamais à discuter avec ces gens-là ou tout simplement, avec leur accord, de vous emparer de leur travail. S'ils ont bien écrit des scénarios maison, mais libre à vous de les utiliser, mais libre à vous, eh bien, de vous épargner le deck Léviathan de temps en temps, quand vous en avez l'envie, quand vous en avez le temps. Ce deck Léviathan, comme je vous l'ai dit, je n'en pense que du bien, mais il est parfois de bon ton de s'en éloigner un petit peu. Et à propos de ce deck Léviathan, je ne vous en ai pas parlé, mais évidemment, ne jouez qu'en objectif tactique. Jamais de la vie, vous ne prenez les objectifs fixes. C'est chiant comme la pluie. Naturellement, dans la méta actuelle, on trouve majoritairement des armées où il y a à la fois beaucoup de personnages et beaucoup de véhicules. Naturellement, choisir vos objectifs fixes, assassinat et abattez-le, ouais, C'est chiant, mec. C'est ennuyeux à mourir. Oui, j'ai beaucoup de personnages et de véhicules. Toi, tu me proposes de tous les tuer. Non, non, fais autre chose. Déploie des balises, va dans des quarts de table, fais ce que tu veux, mais joue en objectif tactique. Les objectifs tactiques permettent de redistribuer les chances entre deux adversaires. Les objectifs tactiques vous permettent d'introduire une part d'aléatoire dans vos parties. Vous allez vous faire bousculer votre plan de bataille. Vous allez avoir des petits bâtons dans les roues. Et c'est ça qui rend véritablement le match play à la fois lucratif et à la fois rigolo. Ne jouez pas les objectifs fixes. Je pense honnêtement que les objectifs fixes, il n'y a qu'en tournoi que là, évidemment, je n'ai pas de contre-indication à les jouer en tournoi. En tournoi, le but, c'est de mettre le plus gros score possible. Donc, naturellement, si en face de vous, il y a un gars qui a 5 personnages et 5 véhicules, évidemment, vous allez jouer les objectifs de mission fixe. Mais franchement, dans le cadre de vos petites parties à la maison et même dans le cadre associatif, ne jouez qu'en mission tactique, c'est bien plus marrant. Et oubliez tout de suite les cartes secondaires gageurs, qui là, à mon sens, c'est un raté. Je salue finalement l'effort qu'a été celui de Game Workshop de rédiger des règles permettant à un joueur en très mauvaise posture de pouvoir s'en sortir, mais généralement ça se résume à je rejoins un coin de la table, je lance 2 dés, et si je fais un 11 ou plus, je mets 30 points de victoire. Donc voilà, stratégiquement, c'est nul. On ne comprend pas finalement pourquoi c'est censé nous rapporter 30 points de victoire de parvenir à s'enfuir. J'ai essayé 3 ou 4 fois. Après, j'ai dit, bon, on arrête, c'est un peu naze, quoi. Autant jouer tactique jusqu'au bout. Les objectifs tactiques permettent, à mon sens, même à une armée en mauvaise position, de toujours rebondir un petit peu et de ne pas trop se faire latter les couilles au score. Donc, vraiment, ce deck Léviathan, c'est très bien. Quand vous n'avez pas le temps, restez-en vraiment à sa forme brute, qui est vraiment excellente à mon avis. Quand vous avez le temps, prenez le temps de le réécrire un petit peu en accord avec votre adversaire et pourquoi pas de rajouter quelques petites règles spéciales qui vont rajouter un peu de peps à vos parties. Et quand vraiment vous voulez mettre le doigt dans ce qui est la vraie bataille narrative, eh bien, faites un effort de rédaction. Réfléchissez, inspirez-vous des autres, jouez des scénarios que d'autres ont créés avant vous pour vous inspirer. Et je n'en ai pas parlé, mais il y a également les petits scénarios dans les White Dwarf. Et à ce titre, je me permets de saluer le boulot qui a été fait dernièrement dans les derniers White Dwarf, où on trouve l'émission Bunker, il me semble que ça s'appelle. Bref, j'ai joué plusieurs fois des petites parties à 1000 points avec des scénarios White Dwarf qui étaient tout à fait excellentes, qui vraiment sont une petite bouffée d'air frais en fait. Il y avait des mécaniques de jeu qu'on ne trouve pas dans le deck Léviathan et ça fait du bien de changer. De toute manière, la seule règle concernant les missions, c'est jouer avec de la variété. Ne faites pas toujours les mêmes missions. Faites du narratif, faites du match-play, faites du match-play un peu narratif. En gros, vous avez le choix des armes et je ne peux que vous encourager à commencer à griffonner des petits bouts de papier avec ce que seront vos propres idées de mission. Je joue une armée, cette armée je l'aime, j'ai envie qu'elle accomplisse une mission spéciale et je vais essayer de lui trouver un but. Voilà. Démerdez-vous avec ça. Honnêtement, là, je n'ai fait que gratter le vernis d'une œuvre colossale, l'œuvre de l'écriture de scénario. Mais peut-être que ça vous donnera quelques petites pistes pour mettre la main à la pâte. Et pour ma part, je vais continuer de bosser sur des scénarios maison, je pense, de plus en plus touffus. Et peut-être qu'un jour, je reviendrai vers vous pour vous présenter un concept de mission. Voilà. Je pense avoir tout dit et en même temps, je n'ai rien dit également. Je vous souhaite bon vent. N'hésitez pas à me retrouver sur les quelques médias qui sont les miens. Donc la page peinture sur Instagram, Brother Maxou Painting. Je vous souhaite bon vent les amis. Portez-vous bien. Brutalité et ruralité toujours. À ciao.